نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوع هذا اللقاء هو بعنوان التيتر de ce thème est les actions expiatoires. Les actions expiatoires. Et comme pour chaque thème, on doit tout d'abord définir le titre, définir le sujet et le thème avant de commencer à parler des règles et des détails. Les actions expiatoires, je vais parler de ce qui expie, efface les péchés du musulman. Et comme chacun de nous a ses péchés, a ses défauts dans cette vie, il est certain que chacun de nous a besoin de chercher pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun de nous a besoin que Allah azza wa jal efface ses péchés. Et je citerai quelques belles paroles de certains savants tels que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ibn al-Rajab et d'autres savants à ce propos. Le terme expiation, qui veut dire cacher, effacer, absoudre, est un terme qui est tiré du Coran et de Sunna. Kaffara, yukaffiru. C'est un terme qui est tiré du Sunna et du Coran. Dans la langue arabe au sens propre, kaffara, satara. Satara, cacher. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle le kafir, kafir, car il cache la vérité. Même l'agriculteur qui met la graine dans la terre, dans le sol, il la couvre, on l'appelle kafir. Kafir, dans la langue arabe, il est cité même dans le Coran al-Karim. Alors là, on va parler des actions qui vont effacer, cacher, à jamais, alhamdulillah, les péchés que peut faire chacun de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim dit: In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Nukaffir. Si vous évitez les grands péchés, si vous évitez les grands péchés qui sont interdits, Allah vous effacera les petits. C'est-à-dire que le fait de s'abstenir de commettre les grands péchés, automatiquement, Allah Azza wa Jal efface tes petits péchés. On viendra sur les détails. Donc le terme expier se trouve dans le Coran al-Karim. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut lire dans le hadith sahih, As-salawatu al-khams, والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كفارة. Les cinq prières obligatoires, la prière du vendredi, le jeûne du mois du Ramadan, efface, expie, efface les péchés. Donc là, on est face à des termes, à une terminologie coranique et prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose. Donc, on va parler de ces pratiques et de ces actions qui vont effacer les péchés que tu fais. Et comme chacun de nous, comme j'ai dit au début, il fait à un moment ou à un autre, il fait des péchés. Il y a certains qui font des petits, et d'autres qui font les petits et les grands, d'autres qui tombent dans l'innovation, d'autres qui tombent dans l'acte de mécréance, etc. Alors, à partir de là, on a besoin de al-kaffara, takfir, al-dunu, que les péchés soient effacés. Et j'ai quelques points par lesquels je vais commencer comme introduction. C'est que, avant de parler de l'expiation des péchés, ça veut dire, quand on parle de l'expiation des péchés, ça veut dire qu'il y a des péchés et on cherche à les effacer avant le jour de la résurrection, avant qu'on soit jugé, Yom al-Qiyamah. C'est ça le but. C'est comment pouvoir effacer nos péchés avant de rencontrer Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Parce que comme je vais citer la parole de Ibn al-Qayyim qui nous cite les trois chances qu'a le musulman, qu'a la personne pour se faire effacer les péchés. Sinon, si aucune de ces trois sources n'efface tes péchés, eh bien, ils vont être effacés en enfer, ou l'ayyadu billah. La même chose dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il cite dans son livre de Majmou' al-Fatawa quelques points qui effacent les péchés du musulman, environ 11 points, et à la fin il dit que regarde combien tu as de stations pour te purifier, pour expier tes péchés. Nahu ashri mahattat li mahwi dhunub wa takfir dhunub. Alors si à la fin, après ces 11 stations, tu n'en profites pas, eh bien tu viendras yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, tu dois passer en enfer pour être purifié. فمن لم تدركه احدى هذه الامور فقد استوجب النار. Il mérite l'enfer يوم القيامة. Tu as plein de chances pour expier les péchés. Mais l'islam insiste sur un point qui est nécessaire. Avant de parler de l'expiation, on doit certainement parler de la prévention. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. الوقاية خير من العلاج. Avant de parler de l'expiation des péchés, il vaut mieux parler d'éviter de faire les péchés, d'éviter de commettre le péché. أن تجتنب المعصية أفضل من أن تبحث عن تكفيرها بعد الوقوع فيها. D'abord, essaie d'éviter de faire le péché. Car ça te fait gagner du temps. Le fait d'éviter le péché, ça te fait gagner du temps. Au lieu de faire le péché, chercher à l'expier, ça prend du temps. Ça prend le temps, ça prend des efforts. Il se peut que tu n'arriveras pas à expier ton péché. Alors c'est mieux d'éviter de tomber dans le péché. Surtout les grands. Et de ne pas insister, persister sur les petits péchés. La tusarra ala sagira wa jtanibil kabira. Évite les grands péchés et n'insiste pas sur les petits péchés. Ne dis pas que ceci est un petit péché, c'est pas grave. Du moment que je fais les 5 prières obligatoires, eh bien il est pardonné d'office. On verra qu'est-ce que dit l'ulama à ce sujet bi'ibnillah subhanahu wa ta'ala. Donc on est maintenant tout à fait dans cette introduction. Le premier point, c'est prévenir vaut mieux que guérir. Ça veut dire ne fais pas le péché. Essaye d'éviter le péché. La deuxième chose, c'est que nous avons beaucoup de péchés. Kathratu dhunub. Nous avons beaucoup, beaucoup de péchés. Et Allah est le seul à savoir combien chacun et chacune parmi nous a de péchés. Depuis sa puberté, combien a-t-il fait de péchés et qu'il fait encore de péchés. Allah est le seul à savoir, avant qu'on se rencontre dans cette salle, combien a-t-on fait de péchés et combien on fera demain et après-demain. Et combien on a fait durant toute l'année. Alors, si on médite sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par Muslim, hadith de Abi Dharr, qui est très connu, le hadith il est un peu long, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: Ibadi, inni haramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Je me suis interdit d'être injuste, Allah dit. Et j'ai interdit je vous ai interdit d'être injustes les uns envers les autres. Jusqu'à ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wa nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Innakum tukhti'una billayli wa nahar. Vous commettez les péchés jour et nuit. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, ô mes serviteurs, vous commettez les péchés jour et nuit. Tukhti'una billayli wa nahar. Et moi je pardonne tous les péchés. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? On doit demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, comme il dit, fastaghfiruni aghfir lakum. Alors, cherchez pardon. On a cette kafra de dhunub, il y a l'abondance des péchés. Il n'y a pas de temps en temps le péché. Tu vois chez les musulmans qu'il y a la courbe des péchés, elle est constamment croissante. Il n'y a pas croissante et plus constante et plus décroissante. Elle est tout le temps croissante, elle monte, elle monte. Ce qui fait que le sujet devient encore plus important. Le fait de chercher à expier ses péchés, car il y en a beaucoup. Kathrat al-dhunub. Et c'est elle, c'est le péché qui détruit l'homme. C'est le péché qui détruit la vie. C'est le péché qui a chassé Iblis du paradis. C'est le péché qui a chassé Adam du paradis. C'est le péché qui fera rentrer les gens en enfer. C'est le péché qui a rendu la vie pour certains malheureuse. C'est le péché qui détruit les couples. C'est le péché qui divise les musulmans, c'est les péchés qui nous laissent courir derrière dunya, derrière le bien matériel. Le péché est à l'origine de la plupart, si ce n'est pas de tout ce qui nous arrive comme malheur. Et comme ils sont très nombreux, on doit chercher à expier nos péchés bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, c'est que le musulman est appelé par Allah Azza wa Jal à se débarrasser de ses péchés. Même s'ils sont très nombreux. Allah t'ordonne de te débarrasser de tes péchés. Ne viens pas, Yawm al-Qiyam, à dire, Ya Rab, moi j'avais beaucoup de péchés, c'est pour ça que j'ai rien fait. Je n'ai pas fait tawa parce que j'en avais beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qawlan wa fi'lan, par sa parole et par ce geste, nous a donné le meilleur modèle, qudwa, le meilleur modèle, dans le fait de se débarrasser de Adhunoum et de vouloir se débarrasser des péchés. Allah lui a pardonné tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il demandait pardon à Allah Azza wa Jal au moins une centaine de fois par jour, des fois. 100 fois par jour. Il dit Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Pour se débarrasser de nos péchés, nous devons chercher l'expiation. Et là, il y a la parole de Ibn al-Qayyim qui dit, rahimahullah ta'ala, dans le livre de Madaris al-Salikin, il dit, فَلِ أَهْلِ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةُ أَنْهَارٍ عِظَامٍ. Les pécheurs, ceux qui ont commis les péchés, ont trois grandes rivières pour se purifier. Trois stations de purification. فَلِ أَهْلِ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةُ أَنْهَارٍ عِظَامٍ. Trois grandes rivières pour se purifier. يتطهرون بها في الدنيا فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. Il dit il y a quatre rivières, trois dans cette vie et une dans l'au-delà. Tu as trois stations pour te purifier. Si tu n'arrives pas à te purifier, eh bien ça sera la rivière de l'enfer qui va te purifier. Pour te montrer la gravité de la situation. ثلاثة أنهار في الدنيا. On sait qu'il y aura des musulmans qui iront en enfer, ils vont être brûlés en enfer, excepté les endroits de la prosternation. Et bien après ils vont sortir de l'enfer, mais après quoi? Après l'adab, bien sûr. Ce n'est pas une chose à souhaiter, mais il y aura certains qui vont passer par là. Alors Ibn al-Qayyim fait allusion à cela quand il dit que tu as devant toi trois chances, trois rivières, trois stations de purification. Si tu les rates, eh bien, tu dois t'attendre à la quatrième et à la dernière, qui est le feu de la fournaise, le jahannam, mas'alullah as-salamata wa al-afiyah. La première rivière, il dit, nahru tawbatin nasuh. La première rivière pour te purifier, c'est un repentir, la rivière du repentir sincère. At-tawbatu an-nasuh. Wa nahru al-masa'ib wa nahru al-hasanat al-mustaghriqati lil-awzar al-muhitati biha. Nahru al-hasanat al-mustaghriqati lil-awzar al-muhitati biha. La deuxième rivière, la deuxième station de purification, c'est la station des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres importantes. Al-hasanat al-azima allati kama 'abbara 'anha fi maqati' ukhra قال التي تذوب فيها المعاصي وأشار إلى ذلك ابن تيمية حتى الكبائر كما سيأتي الكلام. Il dit que le fait d'avoir des bonnes œuvres, mais des grandes bonnes œuvres, أعمال صالحة لكنها عظيمة, des grandes bonnes œuvres plus importantes, il dit que ça dissout les péchés. تذوب فيها المعاصي. Et on reviendra sur les exemples. La troisième station, ونهر المصائب العظيمة المكفرة. La station de purification par les malheurs qui affligent le musulman. نهر المصائب. On lit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par le Bukhari et Muslim, ما يصيب المسلم من نصب. Tout ce qui touche le musulman, tout ce qui afflige le musulman, comme fatigue, ta'ab, النصب, التعب, أو وصب, مرض, maladie, ولا وصب ولا هم لسوسي ولا حزن تريستس ولا اذى بريجوديس ولا غم افليكسيون دو توت اوردر جوسكا لبين حتى الشوكه يشاكها. Une épine qui te touche et qui te fait du mal, jusqu'à l'épine qui le blesse, sont tout autant de motifs que Allah subhanahu wa ta'ala allègue pour absoudre ses péchés. Tout ce qui touche le musulman, maladie, souffrance, fatigue, blessure, tristesse, affliction, souci, etc. Tout ce qui touche le musulman, كل ما يصيب المسلم من مرض أو تعب أو قلق أو هم أو غم أو أذى إلى غيره حتى الشوكة, même une blessure faite par une épine, eh bien c'est pour toi une expiation de péché. يَمْحُ اللَّهُ لَكَ بِهَا الذُّنُوبِ. Donc c'est une station de purification, comme dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Alors, il dit à la fin, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا. Si Allah veut du bien pour toi, toi aussi tu as envie de chercher le bien, tu fais les efforts pour atteindre le bien. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا أَدْخَلَهُ أَحَدَ هَذِهِ الْأَنْهَارِ الثَّلَاثَةَ. Allah te fait passer dans l'une de ces trois stations, s'il veut du bien pour toi. فَوَرَدَ الْقِيَامَةَ طَيِّبًا طَهِرًا. Si tu passes dans ces trois stations, ou tu passes au moins dans l'une de ces trois stations, comment tu viendras يَوْمُ الْقِيَامَةَ? Tu viendras propre, purifié, طَيِّبًا طَهِرًا. Tu viendras bien lavé de tes péchés. Même au moment, comme on verra inshallah azza wa jal, même au moment de ta mort, de l'agonie, si tu as encore des péchés, Allah il va te faire souffrir un petit peu. Donc sakarat. Sakarat el maut, pourquoi comme ça? Tu viens yom el qiyama comme le jour de ta naissance avec aucun péché. Tout effacé, tout expié. C'est ce que veut Allah ta'ala pour toi. Ce que veut, c'est-à-dire dans le sens de l'mahabba, ce qu'il aime pour toi. Al-irada al-shar'iyya, ce qu'il aime pour toi. Il aime que tu sois purifié dans l'une de ces trois stations. Et il termine Ibn al-Qayyim, il dit, فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّطْهِيرِ الرَّابِعِ. Si tu passes dans l'une de ces trois stations, alors tu n'auras plus besoin de passer dans la troisième rivière qui est la rivière de l'enfer. لَمْ تَحْتَجْ إِلَى النَّهْرِ الرَّابِعِ. Quatre rappels qu'on appelle الزواجر. Quatre rappels qu'on doit se mettre chaque fois en face de nous. Ne pas les oublier. Ça nous aide de un à nous purifier, plutôt ça nous aide d'abord à éviter de tomber dans le marsia, dans le péché. Ça nous aide à nous débarrasser de nos péchés. Ça nous aide à nous purifier de nos péchés avant Yom Qiyama. Si on se rappelle les quatre points que je citerai, le premier point qui nous aide fortement à ne pas commettre le péché, c'est Muraqabatullah. Muraqabatullahi fi sirri wal alam. Muraqabatullahi haythuma kunt. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith al-hasan. Ittaqillaha haythuma kunt. Wa atbi'i sayyata al-hasanata tamhuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan, al hadith 'inda at-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs c'est de là qu'on a tiré le titre, le thème, le titre de cette conférence est tiré de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du verset du Coran al-Karim dans sourate Hud 114. Allah azza wa jal dit: inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at, inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises, les bonnes œuvres expient les mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: crains Allah là où tu sois. Muraqabatullah. Crains Allah là où tu sois. Tu es avec tes frères, tu dois craindre Allah Azza wa Jal. Avant de parler, avant d'agir. Tu es à la maison, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es devant la tentation, devant ash-shahwa, devant la passion, tu dois craindre Allah Azza wa Jal. Car comme tu as honte, ou tu as de la pudeur de commettre al-ma'siya face aux gens, parce qu'il y a les gens qui te regardent, il y a ton frère, il y a les amis, eh bien tu dois craindre encore plus Allah Azza wa Jal et avoir plus de pudeur de faire le péché, et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et te regarde. Idhan muraqabatullah, le fait d'avoir tout le temps muraqabatullah dans sa foi et dans son cœur, ça t'empêche de commettre al-ma'siya. Et même si jamais tu tombes dans le péché directement, tadhakkaru fa idahum mubsirun, tu te rappelles directement qu'Allah azza wa jal t'a vu au moment où tu as commis le péché, alors tu dis astaghfirullah, atoubu ila Allah, et tu fais at-tawba al-istighfar, et même tu fais suivre la mauvaise action par une bonne action pour l'expier, pour l'effacer. Donc muraqabatullah. La deuxième chose qui nous aide à pratiquer la règle, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est de bien comprendre azamatullah, la grandeur d'Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, azamatullah. Comment, subhanallah, on n'ose pas commettre une interdiction interdite par un homme, par un être humain. Shay'un harramahu bashar la tajru'u ala ma'siyatihi. Je vous donne un exemple. La plupart des gens n'osent pas brûler le feu rouge. Pourquoi? Parce que c'est interdit. Il doit éviter de le brûler. On ne peut pas aller dans des endroits sur lesquels on a écrit un panneau interdit de circuler. Domaine privé. Tu dis non, je ne peux pas rentrer. Parce que c'est un domaine privé. Alors qu'il y a moyen de sauter sur le grillage et de rentrer. Tu dis non, c'est un domaine privé. C'est possible qu'il y ait un chien derrière qui se cache. Ou bien on va me faire payer une amende. Tu as peur, tu crains. Subhanallah. Et quand il s'agit de désobéir à Allah Azza wa Jal, tu ne penses même pas. On ne pense même pas. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous voit, qui nous a créés et qui est capable de nous châtier, huwa qadirun ala adabina subhanahu wa ta'ala. Il est capable. C'est possible que la personne qui a écrit domaine privé, interdiction de rentrer, c'est possible que même si tu rentres, il ne sait rien faire. Parce que tu es avec avec ton groupe, avec tes amis, il est tout seul, c'est une personne âgée, il sait rien faire, il te voit, tu lui dis qu'est-ce que t'as, il te dit non, c'est juste pour te dire que c'est un domaine privé, c'est tout, je pars. Allah Ta'ala est capable de châtier. Allah Ta'ala, il est capable de te mettre dans le feu. Allah, il est capable de te faire disparaître. كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. Une maladie à l'hôpital, ambulance, d'urgence, dans le coma, il est capable de te châtier. Allah, il est capable de se venger de toi. Allah قادر على أن ينتقم منك سبحانه وتعالى. Allah, il est capable de nous prendre tous, toute l'humanité, de nous mettre dans le feu. Alors, pourquoi on lui désobéit? Pourquoi on fait les péchés? Si on met chaque fois devant nous Azamatullah subhanahu wa ta'ala, au moins, on diminuera des péchés. Mais quand on fait l'inverse, Allah, c'est la dernière chose à laquelle on pense. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que ça, le médecin l'a interdit? Oui, il l'a interdit, alors je ne bois pas. Allah l'a interdit. Oui, mais tu vois, tu comprends. Les gens ont évolué, c'est pas grave, quelques gouttes, quelques verres, c'est pas grave. Allah, il est pardonneur, il pardonne, subhanahu wa ta'ala. Mais là encore, tu as un faux espoir. Tu es en train de jouer avec le feu, comme on dit. Allah est capable. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour commander, pour monter une pièce de théâtre qu'il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bashiran wa nadhira. Il t'annonce la bonne nouvelle, il est avertisseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'avertit. Attention, où tu iras. Soit le paradis, soit l'enfer. Alors rappelle-toi, Azamatullah Azza wa Jal. Le troisième point, c'est de te rappeler chaque moment. Hadimul Ladvat, le destructeur des désirs, qui est Al-Maut, la mort. La mort. Wallah, si on met devant nous, chaque matin, à chaque moment, la mort, on diminuera de beaucoup de nos péchés. C'est le prophète sallam qui nous incite à nous rappeler beaucoup, à parler beaucoup de Al-Maut, 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 Al-Maut. De parler beaucoup de Al-Maut. Ce n'est pas une vue pessimiste de la vie, mais au contraire, le fait de t'attendre à chaque moment de quitter ce monde, ça te donne la force. Ça te donne la force de faire le bien. Le fait que chaque fois tu te dis dans ta tête, il se peut que demain je ne serai pas en vie. Il se peut que ce soir je ne serai pas en vie. Peut-être d'ici une semaine, je quitterai ce monde. Alors tu agiras en bien et tu feras al-hasanat. Et tu arrêtes de faire sayyi'at. C'est pour cela que le prophète sorcier nous a incité à faire zikr de hadim al-lazzat, c'est-à-dire celui qui détruit les désirs. Les désirs de l'haram, t'as envie de faire l'haram, il y a al-malak, l'ange, qui vient, comme dit le prophète sorcier, l'ammatu malak, et te dit, attention, c'est possible que ce sera les dernières minutes de ta vie. Est-ce que tu acceptes? Tu acceptes que les derniers moments de ta vie soient dans le péché? Tu rencontreras Allah Azza wa Jal et tu seras ressuscité yawm al-qiyama dans le péché, ivre, ou bien en train de commettre l'adultère, traître avec un drapeau sur lequel c'est écrit traître devant tout le monde. Les kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyama, comme dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith al-sahih. Kullu yub'athu al-mar'u fi sahih Muslim yub'athu al-mar'u ala ma mata alayh. Subhanallah. Alors tu penses à la mort beaucoup. Normalement, nous devons tous, chacun de nous, doit penser beaucoup, beaucoup à la mort. Quand tu mets la mort devant toi, tu te dis, quand je vais mourir d'ici une minute, Inch'Allah, je ne vais pas faire de péché. Demain, je vais mourir, Ya Rabbi, je ne fais pas de péché. Après demain, je ne fais pas de péché. Tout le temps en train de te préparer, tu es prêt. Tu es prêt, comme un soldat. Un soldat à qui on dit que d'un moment à l'autre, il y a une attaque de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire ses vêtements, il dépose son arme, il va dormir. Il est prêt, en état d'alerte. Il attend la moindre minute, on lui donne l'alerte, il prend son arme, il va pour combattre. Il est prêt. Toi aussi, tu dois être prêt pour le combat contre quoi? Contre l'enfer, contre l'adab de Nar, yawm al-qiyama. Et le quatrième point, c'est de ne pas oublier ni'amullahi subhanahu wa ta'ala. Ala'ullah, fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Les bienfaits qu'Allah t'a donnés, ne les oublie pas. Qui t'a donné ces mains avec lesquelles tu fais le péché? Qui te les a donnés? Le patron. Tu les as achetés à l'abattoir. Qui? Allah Azza wa Jalla. Qui t'a donné ces yeux avec lesquels tu fais le ma'asiyya? Allah. Qui t'a donné les oreilles avec lesquelles tu fais le ma'asiyya? Allah. Qui t'a donné la langue avec laquelle tu fais le riba, le namim, le kadib, etc. Allah. Qui t'a donné l'oxygène que tu respires? Allah. Qui te nourrit? Allah. Qui t'a mis au monde? Qui t'a créé? Il t'a mis au monde, c'est ta mère. Qui l'a créé? Allah. Tout ce que tu as, c'est Allah Azza wa Jal. Tu tournes et la conclusion, c'est toujours Allah, 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 subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi tu n'as pas d'estime, tu n'as pas de respect pour Allah, subhanahu wa ta'ala? Pourquoi il commet le péché? Ce musulman à qui, quand tu lui dis, au moins, s'il fait le péché, tu lui dis, Eflan, Taqillah, Staghfirullah, il te dit, Na'am, j'avoue que j'ai fait le péché. Et je reconnais avoir fait le péché. Et je regrette, et Inch'Allah, ça sera la dernière fois. Celui-là, c'est quelqu'un de bien, fil khayr. Mais le problème, c'est quand tu lui dis, Eflan, Taqillah, tu fais un péché, Taqillah, qu'est-ce que tu fais? Dans la rue, en plein public, Et alors, ça ne te regarde pas, c'est pas ton problème. Je suis libre, je fais ce que je veux. Ça veut dire, il se rebelle contre qui? Contre Allah. Moi, si je te le dis ou bien tu me le dis, c'est parce que tu me veux du bien, je te veux du bien. Tu lui dis, arrête de faire le péché, tu ne gagnes pas de l'argent derrière ça. La as'alukum alayhi ajra. Comme disait le prophète, tous les prophètes, ils disaient à leur peuple, moi je vous dis cela, je ne veux pas de l'argent pour cela. Je vous le dis, lillah azza wa jal. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je veux que tu n'ailles pas en enfer. Et comment tu entends la réponse? La réponse de quelqu'un qui a l'orgueil, al-kibri, n'accepte pas al-nasiha, batarul haqq. Avant de continuer dans le thème proprement dit, il est nécessaire de rappeler les trois sortes d'actions expiatoires. Aqsamu al-a'mal allati tukaffiru al-dhunub. Il y a trois types d'actions expiatoires. Vu les trois types de péchés. Puisqu'il y a trois sortes de péchés, il y a trois sortes d'actions qui expient les péchés. On a al-kufr, la mécréance. On a l'expiation de la mécréance. Al-hasanatu allati tukaffiru al-kufr. L'action qui expie, qui efface la mécréance. Et laquelle? Qui l'a connu? La ilaha illallah. L'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tawhidullah azza wa jalla. L'unicité, l'attestation de foi, c'est-à-dire l'islam, al-islam efface al-kufr. Et dans Sahih Muslim, dans l'histoire de la conversion de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, comme rapporte l'imam Muslim, dans l'histoire de Amr ibn al-As, au moment de sa mort, il était sur le lit de la mort, kana ala firash al-maut. Et près de lui, il y avait son fils Abdullah ibn Amr, parmi les jeunes sahaba, les plus grands pratiquants dans l'ibada, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et le père Amr ibn al-As, qui pleure, il pleure yabki sur le lit de la mort. Abdullah ibn Amr, son fils, lui dit, pourquoi tu pleures mon père? Et il y a quelques musulmans qui sont rentrés pour lui rendre visite. Ils disent, pourquoi tu pleures? Tu es le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anta sahibu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa tabki au moment de la mort. Il dit, pourquoi je ne vais pas pleurer alors que j'ai traversé trois stades dans ma vie? وقد مرت علي أو ركبنا ثلاثة أطباق لتركبن طبقا عن طبق. État après état, on passe des états dans la vie. Une fois la foi monte, une fois elle descend, une fois dans le péché, une fois dans l'obéissance. Je parle de nous. Mais lui, il a dit qu'il a traversé dans sa vie trois étapes. Il dit la première étape, quand j'étais dans l'ère anti-islamique, dans le jahiliya, je déclarais la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je cherchais la moindre occasion pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant l'islam. Et Mohammed était, alayhi salatu wa sallam, était la personne que je détestais le plus au monde. Et je cherchais la moindre occasion pour le tuer. Alors je pleure maintenant parce que si jamais je suis resté dans le jahiliya, eh bien j'aurais été en enfer. La deuxième étape, c'est quand je me suis converti à l'islam, je suis devenu musulman. Eh bien, j'étais près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai voyagé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr ibn al-As radiyallahu anhu fait partie de ses compagnons qui ont dit...
Veuillez retourner la cassette, s'il vous plaît.
Qui ont dit que si l'un d'entre vous me demande de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne serai pas le faire en détail. Tellement j'avais le haya, la pudeur de regarder dans le visage du prophète, comme ça, les yeux dans les yeux. Il dit, min al-haya haybatan, min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas le regarder comme ça face à face. Je baissais mon regard. Si quelqu'un me demande de le décrire en détail jusqu'à la fin de ses jours, je ne saurais pas le faire. Haya min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si j'étais mort durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien j'aurais une grande chance d'aller au paradis. Il dit la troisième étape, c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a eu des fitnas, Notamment à l'époque entre Muawiyah et Ali radiyallahu anhum, on connaît tous la guerre qu'il y a eu entre les sahaba radiyallahu anhum par leur ijtihad. Il dit, on a eu des fitnas, on a eu des épreuves, et on a fait des choses à gauche et à droite dans ces épreuves par l'ijtihad. Allah Azza wa Jal a pardonné à beaucoup de sahaba leurs péchés comme ceux de Badr, Bay'at, Ridwan, etc. Il dit, alors c'est pour cela que je crains, je ne sais pas où je vais aller après ma mort. Je parle de cette histoire de Amr al-As pour revenir au point que je voulais dire, c'est que Amr al-As, au moment où il a embrassé l'islam, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, Ya Amr, hati yadak, donne-moi ta main. Amr lui dit, prends ma main, ya Rasulallah, et puis il l'a retiré. Rasul alayhi sallallahu alayhi wa lui dit, pourquoi tu tires ta main? Amr al-As lui dit, j'ai une condition. C'est quoi ta condition? Ashtarit. Il dit, je mets comme condition qu'Allah efface tous mes péchés avant l'islam. Alors le prophète dit, Ya Amr, ama alimta ya Amr, anna l'islam yahdimu ma qablah, wa anna l'hijrata tahdimu ma qablah, wa anna l'hajja yahdimu ma qablah. Ne sais-tu pas que l'islam expie, efface tout le passé, c'est-à-dire l'islam efface la mécréance. Idan, hadha naw' al-awwal, ça c'est la première sorte d'expiation, acte expiatoire. On a l'islam, l'unicité, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça expie la mécréance et le kufr. Deuxième sorte d'action expiatoire, ce sont les actions qui expient les grands péchés, al-a'malu allati tukaffiru al-kaba'ir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans sourate al-Furqan, le discernement, quelques grands péchés. Il a cité l'adultère. Il a cité le fait de commettre un crime, de tuer quelqu'un injustement. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرٌ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Allah a cité des grands péchés. ذَكَرَ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ ذَكَرَ الْقَتْلِ ذَكَرَ الزِّنَا وَقَالْ إِلَّا مَنْ تَابَ. Mais celui qui fait tauba, Allah expie leurs péchés. Donc les grands péchés sont expiés par certaines expiations. الكبائر لها ما يكفرها والكفر له ما يكفره والصغائر لها ما يكفرها. La mécréance a un acte, une action expiatoire qui est l'islam, l'unicité, et les grands péchés, il y a ce qui expie le grand péché, c'est quoi? At-tawba, le repentir. At-tawba, le repentir, regretter, ne plus jamais regretter et arrêter de faire le péché, de décider de ne plus jamais le refaire. Si ça fait du mal à quelqu'un, tu lui demandes pardon, bien tu fais l'istighfar pour lui, tu demandes à Allah Azza wa Jalla de lui pardonner, de lui donner le bien, etc. Si tu n'arrives pas à rencontrer la personne, ou bien tu crains que ça se termine par encore plus de dégâts. Donc, la deuxième sorte d'action expiatoire, c'est le repentir qui expie les grands péchés. La troisième sorte, c'est ce qu'on appelle al-hasanatu al-mahiya, c'est-à-dire ce que nous allons voir aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, les actions expiatoires des petits péchés. Pour les petits péchés. Les petits péchés, je crois que les frères savent, et les sœurs, les frères et sœurs savent la différence entre les grands et les petits péchés. Il y a eu des conférences par certains frères, barakallahu fihum, ils ont fait ça. Mais juste pour vous rappeler, le grand péché, on le reconnaît par quoi? C'est par le fait que soit il est cité dans le Coran ou bien dans le Hadith, suivi par un avertissement par le feu, par un châtiment, par une malédiction, ou bien il est cité dans le Coran ou bien dans le Hadith que celui qui le fait n'ira pas au paradis, ou bien par le fait que celui qui le fait, il aura commis un grand péché, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, السبع الموبقات الا ادلكم على اكبر الكبائر. Les grands péchés, c'est le prophète qui donne comme nomination grand péché. On déduit à partir de là que là il s'agit de grands péchés. Le reste c'est des petits péchés.
Et Allah Azza wa Jal a donné la règle dans le Coran. Si vous évitez les grands péchés, Allah vous effacera les petits. Ça veut dire qu'il y a des grands, il y a des petits. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Quant à Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, dans son livre de Majmou' al-Fatawa, et je crois que c'est dans le septième volume, Al-Mujallad al-Sabi', et un peu dans certains autres chapitres, a parlé des actions en général, les actions expiatoires, que ce soit expiatoire des grands péchés, des petits, etc. Et il a cité 10 à 11 points. Il a cité At-Tawba, le repentir, c'est une action expiatoire. C'est un acte expiatoire des péchés, et notamment des grands péchés. At-Tawba. Deux, l'istighfar. Faire l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. À chaque moment, de dire astaghfirullah, astaghfirullah. Et on a même une formule qu'on appelle Sayyidou. Sayyidou l'istighfar, la formule maîtresse de l'istighfar. Qui la connaît? Si un frère la connaît, il peut la dire maintenant. Faddal. Allahumma anta rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma. La, dkhalna fi al-tughut E15. Kharajna ma. La, mashi hiya hadik. Hadik moura al-adhan, après l'adhan. La, hadik hatta hadik E14. Jazakallahu khair. Allahumma anta rabbi. Khalaqta la ilaha illa anta. Zid. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك لا أعوذ بك من شر ما صنعت. Je cherche protection contre le mal que j'ai fait, moi. Là tu es en train de reconnaître tes péchés devant Allah. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي. Et je reconnais tes bienfaits sur moi que tu m'as donné. وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِ. Et je reconnais mes péchés. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Tu es le seul à pouvoir pardonner les péchés. Il y a quelqu'un qui sait pardonner les péchés? Il va te dire maintenant, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, je vais te les pardonner. Fais ma'lish, c'est pas grave. Viens derrière moi. Je vais te défendre. Parce que c'est moi ton président. C'est moi le président du parti. C'est moi le chef du parti. Etc. Eh bien, ne crains rien. Moi, je suis comme maintenant. C'est moi le chef. Et vous devez me suivre. Eh bien, Yom Al-Qiyama, je vais vous défendre. Vous n'avez rien à craindre. De fait, il ne faut pas craindre. Je suis là, Yom Al-Qiyama. Mais qu'est-ce qu'il dira, Yom Al-Qiyama? إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ceux qui étaient suivis dans ce monde, le jour de la résurrection, ils vont te nier. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. بعد, je te connais plus. Qui es-tu? Tu vas lui dire, mais j'étais un membre de ton. Mais je ne te connais pas, mon frère. C'est quel rafak? Mais je ne te connais pas. Mais c'est toi, un tel, et tu avais. Subhanallah, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, dans le chemin du mal. Il va dire, non, désolé, tu t'es trompé. Je ne te connais pas. Ba'd, Allah, il utilise le terme nier. Tabarra'a, désavoué. Il tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'au al-adab. Il voit le châtiment, c'est normal, il va te nier. وَرَأَوْ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Et ceux qui suivaient, qu'est-ce qu'ils diront? وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا. Si on avait seulement une chance de les désavouer comme ils l'ont fait. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc l'istighfar, chercher pardon, ça fait partie des actions expiatoires. Trois, il y a الحسنات الماحية, les actions expiatoires des petits péchés dont on va parler inshallah azza wa jal. 4, al-masa'ib al-mukaffira, les malheurs qui et les afflictions qui affligent le musulman, la mort de quelqu'un, la maladie, les blessures, la tristesse, etc., comme j'ai cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça explique les péchés. 5, da'awat al-mu'minin as-salihin lah, les invocations faites par tes frères, par les pieux. Ils font pour toi des invocations. Et où est-ce qu'elle est la preuve comme quoi les invocations faites par quelqu'un pour son frère expient les péchés? Et tu peux être pardonné grâce à la da'wa, l'invocation faite par un musulman. Qui connaît un dalil pour cela? Comme quoi, on peut demander à quelqu'un d'implorer pardon pour nous, et que si jamais quelqu'un fait des invocations pour toi, Allah te pardonne les péchés. On a une très belle histoire. Hein? On a une très belle histoire. Dans le hadith sahih, l'histoire de Uwais. Zid, Uwais al-Qarni. Ça vous dit quelque chose? L'histoire de Uwais al-Qarni. Ça vous dit rien? Subhanallah. Uwais al-Qarni était un jeune qui avait perdu son père, qui est décédé. Il n'avait que sa mère. Il était quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien envers sa mère. Al-Bir, mais Ummi. Il faisait beaucoup de bien envers sa mère, il avait perdu son père. Et il avait de la lèpre. Et Allah Azza wa Jalla l'a guéri, excepté la taille d'une pièce de monnaie, comme signe par lequel on le reconnaît. Et ce jeune musulman n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas rencontré. Ce n'est pas un sahabi. C'est un simple musulman. Mais Rasul alayhi sallallahu alayhi wa sallam parlait de lui avec sahaba. Il dit à Omar ibn al-Khattab, à sahaba, les grands sahaba. Il leur dit, il viendra après moi, donc pas parmi sahaba, un tabi'i, un homme qui s'appelle Uwais al-Qarni. Uwais, c'est un bon nom pour ceux qui veulent donner un nom musulman pour leur fils, Uwais. Hein, au lieu de chercher dans le Coran quelque chose qui ressemble, hein, vous savez à quoi. Il dit, non, il est dans le Coran. Mais ton intention, c'est pas ça. Uwais al-Qarni, Rasul me dit que cet homme, c'est quelqu'un qui obéit à sa mère et qui a fait beaucoup de bien envers sa mère. Il était barren bi ummi. Et si vous voulez le reconnaître, eh bien, il avait de la lèpre. D'abord, il est de Qaran, une tribu qui s'appelle Qaran. C'est pour ça qu'on l'appelle Qarni. Qarni, relatif à Qaran. Et qui, il avait de la lèpre, mais il est guéri. Sauf la taille d'une pièce de monnaie. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à Sahaba? Il leur dit à Sahaba, si l'un d'entre vous le rencontre, qu'il lui demande d'implorer pardon pour lui. Dites-lui de vous demander à la Azza wa Jalla de vous pardonner. Dis à Uwais, un Sahabi qui dit à Uwais, dis à Allah de me pardonner les péchés. Un Sahabi demande à quelqu'un qui n'est pas Sahabi. Et après la mort de Abu Bakr, à l'époque de Omar, Omar a rencontré ce jeune. Il a rencontré ce jeune. Et il lui a parlé, lui a dit, est-ce que c'est toi, Uwais, tu as ta mère et tu étais quelqu'un de très très bon envers ta mère, etc. Il lui a dit, c'est moi. Il lui a dit, Rasul Allah m'a dit de te demander de faire dua pour moi. Il lui a fait dua. Il lui a dit, Allahumma gfir li Umar. Allahumma gfir li Umar. Umar qui a le paradis garanti avec les prophètes et les messagers. Il demande pardon à Uwais. Et Uwais est retourné en Irak. C'est là où il habitait par après. Parce que lui, il vient du Yémen. Et les gens, quand ils ont entendu de Omar qu'il demande des invocations à qui? À un simple musulman. Ils ont dit, oh, Omar, il demande à un simple musulman de lui faire des invocations. Ça veut dire que c'est quelqu'un dont les invocations sont exaucées. Ils ont commencé à le chercher. Où est-ce qu'il est? Où est-ce? Tout le monde demande des invocations. Qu'est-ce qu'il a fait? Disparu. Il est disparu, il est parti. Personne ne sait où il est parti. Pourquoi? Pour éviter de tomber dans l'ostentation. Ria. Ria. Pas comme certains. Ah, moi je suis cheikh, le grand cheikh islam. Je suis le grand mufti. Je suis l'unique, l'érudit. Ria. L'ostentation. Regarde ce musulman. Al-Rasoul Sassou lui a donné, comment on dit, un cachet. Les invocations exaucées. Mais il a préféré disparaître dans la nature, comme on dit, pour ne pas tomber dans l'ostentation, dans le riya. Donc demander pardon à ses frères, demander des invocations à ses frères, bien sûr, demander des invocations à quelqu'un qui est vivant, pas un mort. On ne peut pas implorer les morts. Aller chez un mort et lui demander, ça fait partie du shirk, comme tout le monde sait. Le sixième point, shiddatun nazr wa sakaratul maut, l'agonie, la mort, ça expie les péchés. Si quelqu'un, après les quatre points que j'ai cités, le repentir, l'istighfar, les actions expiatoires dites des péchés, les invocations faites par les musulmans, les malheurs qui affligent le musulman. Après tout cela, il a encore des péchés sur lui. Il a encore des péchés. Eh bien, c'est au moment de la mort où Allah Azza wa Jal expie le reste de ses péchés. Quand tu vois quelqu'un, un bon musulman, qui souffre au moment de l'agonie, c'est parce que Allah Azza wa Jal veut pour lui qu'il quitte ce monde avec aucun péché. Avec aucun péché. Je ne parle pas de quelqu'un qui a fini sa vie dans la souffrance, mais il était dans le mauvais chemin. Il a terminé avec soit al-khatima ou al-iyadu billah. Le septième point, adab al-qabr. Adab al-qabr. Les supplices de la tombe. Le châtiment de la tombe. Adab al-qabr. Adab al-qabr, puisque tu vas payer une partie pour celui qui payera dans la tombe, eh bien les péchés seront expiés. Puisqu'il y aura une partie de l'adab dans la tombe. Ça veut dire que soit une partie ou bien tous les péchés, Allah qui en décide, est expié par adab al-qabr. Nas'alullah an yahfadana wa yaqiyana adab al-qabr. Et Ibn Taymiyyah cite aussi les hasanat que les musulmans font pour toi après ta mort. Comme le dua, comme le sadaqa, comme le hajj, comme l'umra. Ce sont des actions que quelqu'un fait pour toi. Il a l'intention, quand il les fait, que les hasanat, que la récompense, c'est pour toi qui es mort. Là aussi, ça aide à expier une partie des péchés. Et c'est aussi le neuvième point, hawlul matla' ala Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment de peur, quand tu sors de ta tombe le jour de la résurrection, chacun sortira de la tombe avec des péchés, seul Allah Azza wa Jal connaît, excepté bien sûr les prophètes et les messagers. Mais les autres, et ceux qui n'ont pas de péché, mais sinon les autres, ils viendront avec des péchés. Celui qui a tué quelqu'un, ils viendront à deux. Ya Rab, c'est lui qui m'a tué. Dès qu'ils sortent de la tombe, ils vont se diriger vers la place sur laquelle nous allons être jugés, et va le prendre. Il a dit, Ya Rab, demande à celui-là pourquoi il m'a tué. Celui qui était en train de faire le hajj, labbaik Allahumma labbaik, il sortira labbaik Allahumma labbaik. Alors, à ce moment-là, quand, imagine, tu sors de la tombe, tu étais en dessous de la terre, tu sors et tu vois devant toi qui? Tu vas voir des milliards d'anges. Al-Malaika, safan safa. La taille du Malaika, et tu n'as pas où te cacher. Il n'y a pas moyen de se cacher. Il n'y a pas de montagne, pas de puits, pas de maison, pas d'arbre, il n'y a rien. Tout plein. Et tu vois tout le monde devant toi. Et derrière toi, à droite, à gauche, el-ins, les djinns, les humains, les animaux, el-malaïka. Tout le monde est là, devant Allah Azza wa Jal. Et l'enfer, on entend le bruit de l'enfer. Le bruit. Tu peux, pour avoir juste une petite idée, c'est pas pour connaître comment il est le bruit de l'enfer. Écoute un peu, qu'est-ce que ça fait les volcans? Quand tu es tout près du volcan, qu'est-ce que ça fait comme explosion? Et quand il y a un tremblement de terre, qu'est-ce que ça fait? Alors quand tu sors de la tombe, cette peur pour le mu'min, pour un bon musulman, ça expie déjà une partie des péchés. Ça peut expier le reste, il n'aura plus rien. Il avait encore des péchés, mais juste par cette peur qu'il a eue au moment, il est effrayé de voir cette image, eh bien, que par cette peur, Allah Azza wa Jalla lui expie, lui efface les péchés. Et le dixième point, شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء والأولياء والصالحين. L'intercession faite par le prophète عليه الصلاة والسلام ou bien par l'ulama, les savants, ou bien par الشهداء, les martyrs, ou bien par les alliés d'Allah, les أولياء, ou bien par les gens pieux. Ils vont intercéder auprès d'Allah et demander, Ya Rabbi, que tu n'ailles pas en enfer. Tout ce que je viens de citer, c'est avant d'aller en enfer. C'est pour éviter de tomber en enfer, dont a parlé Ibn Qayyim quand il a dit c'est la quatrième rivière. Je parle des trois rivières, tous ces points que je cite, elles sont incluses dans les trois rivières. Eh bien, si le prophète intercède pour toi comme ça tu n'ailles pas en enfer, même si tu le mérites, eh bien, le reste des péchés seront expiés par l'intercession soit du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien par ce que j'ai dit comme ulama, shuhada, etc. Le onzième point, c'est Rahmatu Arhamir Rahimin, Rahmatullah Azza wa Jal. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal, malgré que tu as encore des péchés, tu n'as pas eu la chance d'être sauvé par les 10 points que j'ai cités, ni par l'intercession, ni les actions expiatoires, ni l'istighfar, ni le repentir, ni les invocations, etc. Eh bien, la dernière chance que tu as, c'est quoi? C'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'Allah Azza wa Jal intervient lui-même, subhanahu wa ta'ala, au moment où tu te dis, Ya Rab, c'est fini. Je sais que je vais aller en enfer. Parce que mon livre d'action, regarde Ya Rab, je viens de le lire devant toi. Il est plein de péchés et il y a très très peu de hasanat. Ou bien il y a une seule hasana. Des milliards de péchés, une seule hasana, il n'y a rien. J'ai rien fait. Allah il va te dire, il va le dire à certains musulmans comme rapporte le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un tel jour t'as fait ceci et cela. Tu vas dire, Ya Rab, je l'ai fait. Un tel jour, durant Ramadan, à minuit, tu as été à tel endroit, et tu as fait du bruit, tu as fait ceci, tu as insulté ton frère. Je l'ai fait, Ya Rab. Durant Ramadan, tu avais raté 3 fois le Fajr. Tu n'as pas pris le Fajr à l'heure. Surtout les samedis, dimanches. Ya Rab, je l'ai fait. Je reconnais. Un tel jour, telle année, tu avais désobéi à ton père. Ya Rab, je reconnais. Et tu avais dit ouf à ton père. Tu as même claqué la porte. Je l'ai fait, Ya Rab. Et que Allah Azza wa Jalla te citera quelques péchés que tu as fait. Je reconnais. Et à la fin, tu dis, ça fait. Je sais que je vais en enfer. Allah il te dira, je t'ai pardonné tous les péchés que tu as fait. Rentre au paradis. Rahmatu arhamir rahim. Tu ne mérites pas. Mais Allah Azza wa Jalla, par sa rahma, par sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Celui qui aura raté toutes ces stations, qu'est-ce qu'il ira? Là où ira-t-il? En enfer. فَمَنْ أَخْطَأَتْهُ هَذِهِ الْأُمُورِ فَقَدْ إِسْتَوْجَبَ النَّارِ comme dit le Cheikh Islam ibn Taymiyyah رحمه الله. Il devra passer en enfer. Maintenant, il y a 2 questions importantes. La première, est-ce que les bonnes œuvres que tu fais, toutes les bonnes œuvres, est-ce que ça efface tous les péchés, les grands et les petits, ou bien seulement les petits péchés? Est-ce que al-a'mal as-saliha tamhu adh-dhunuba al-kabira was-saghira am as-saghira faqat, ou bien ça efface seulement les petits péchés? En général, il y a 2 avis de l'ulama. Al-jumhur, la plupart des savants musulmans disent que les actions que tu fais, bien sûr excepté le repentir, les actions que tu fais comme la prière, le jeûne, lire le Coran, faire des invocations, etc. Les actions que tu fais n'effacent que les petits péchés. Ça, c'est l'avis de la plupart des savants musulmans. هذا مذهب الجمهور. أنها لا تمحو ولا تكفر إلا الصغائر. وقد ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى وذكره ابن عبد البر. ابن عبد البر l'a rapporté في كتاب التمهيد. Il rapporte même, il dit que ابن عبد البر, qu'il y a unanimité des savants musulmans sur ce point, comme quoi les œuvres, les bonnes œuvres que tu fais, que ça n'efface que les petits péchés. Mais l'ijma, en vérité, il n'est pas prouvé. Quant à Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, ils ont une autre manière à ce sujet, une autre manière de voir les choses. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis contre cet avis qui dit comme quoi les bonnes œuvres n'effacent que les petits péchés. Il dit que les bonnes œuvres peuvent effacer même les grands péchés sans faire taouba. Parce que le grand péché, ça exige une taouba. Et j'ai dit, c'est quoi taouba? Pour Ibn Taymiyyah, il dit, il se peut, donc c'est une exception à la règle, c'est pas une règle, c'est une exception à la règle, il se peut que certains grands péchés soient effacés par les bonnes actions qu'on fait, même si tu n'as pas fait taouba. Comment a-t-il trouvé cette réponse et cet avis? Eh bien, il dit, regardez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des cas de certains sahaba qui ont commis des grands péchés. Il cite Hatib ibn Abi Balta'a. Pour celui qui veut l'histoire en détail, il peut aller voir Surat al-Mumtahana, l'épreuve, pour lire un peu l'histoire de ce compagnon. Ce compagnon Hatib qui a fait un grand péché, c'est d'écrire une lettre à l'ennemi pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vous attaquer. C'est une trahison. Alors que le prophète avait interdit aux sahabas de le faire. C'est une trahison. Une trahison. Et un grand péché. Mais Allah Azza wa Jal lui a pardonné ce grand péché. Par quoi? Grâce à quoi? Grâce à une bonne action qu'il avait fait auparavant. Bonne action qu'il avait fait, c'est la participation à la bataille du Badr. Et c'est à ce moment-là qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Omar a dit, Ya Rasulallah, laisse-moi faire sauter sa tête. Laisse-moi lui couper la tête. C'est un hypocrite. C'est un munafiq. Il nous a vendu à l'ennemi. C'est un hypocrite. Je vais lui couper la tête. Rasulallah lui dit, non, là, ya Omar. Il lui dit, La'alla Allah tala'a ala ahli badrin faqal, if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Les gens qui ont participé à la bataille du Badr, comme Omar, comme Abu Bakr et d'autres compagnons, Allah leur a pardonné à l'avance tous les péchés. Même s'ils vont faire par après des péchés, ils sont pardonnés à l'avance. Alors, Cheikh Hissam, il dit, regardez, là, il y a un grand péché, effacé par quoi? Par une bonne action. Sans Tawbam, il est déjà effacé par la bonne action. Il cite aussi le cas, il y a plusieurs, là, c'est plusieurs cas. Le cas de la femme qui avait commis un grand péché du temps de Bani Israël. Dari ou Bani Israël. Elle avait commis un grand péché. Elle n'avait pas encore fait Tawba. Elle marchait, elle a trouvé quoi? Un chien. Un chien qui avait très très soif. Qui a failli mourir. Elle a pris ses chaussures. Ça c'est une autre histoire que celle de l'homme qui a trouvé un chien. C'est deux histoires différentes. Elle lui a donné à boire. Elle a sauvé la vie d'un chien. Allah Azza wa Jalla dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Farafara laha. Allah lui a pardonné. Elle avait commis un grand péché, Allah lui a pardonné par cette bonne action. Mais Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il donne une précision très 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 utile pour comprendre ce qu'il dit. Ibn Taymiyyah, il dit, il se peut que quelqu'un donne à boire à un chien et qu'il avait des grands péchés, Allah ne lui pardonne pas les grands péchés. Il se peut que tu fais une trahison, ce qui est un grand péché, et que tu avais fait des bonnes actions, et Allah ne te pardonne pas. Ça veut dire que ce n'est pas une règle générale. Ce n'est pas une règle générale. Il dit que ces personnes sont pardonnées vu ce qui était autour de ce bon geste qu'ils ont fait. Ils avaient, au moment où ils ont fait ce bon geste, ils avaient une sincérité très très forte. Ils avaient une véracité très très forte. Ils avaient une rahma dans leur cœur très forte, comme cette femme. Il dit, Cheikh Islam, vu la rahma qu'elle avait envers cette créature, que les gens ont négligé, ont oublié, ils lui ont pas donné à boire, et que cette femme, malgré qu'elle a commis un grand péché, elle a eu à ce moment-là un moment de rahma, un moment de l'ikhlas pour Allah Azza wa Jal. Elle a voulu lui donner à boire l'illah, pas pour la réputation. Comme on dit, c'est des organismes, protection des animaux. C'est pas pour la réputation, ni pour avoir des subsides. Elle l'a fait fisabi l'illah. Elle a commis un grand péché, mais là, elle avait l'ikhlas, la sincérité. Elle a fait l'illah, elle a sauvé une vie, elle a vu le rahma dans le qalb. Allah Azza wa Jalla lui a pardonné le grand péché. Alors Cheikh Islam il dit qu'il se peut que des gens qui sont dans le même cas, s'ils ont ce genre de l'ikhlas, ce genre de rahma, ce genre de sidq ma Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah leur pardonne les péchés même s'ils n'ont pas encore fait tawbah. Donc pour bien comprendre, qu'est-ce que veut dire Cheikh Islam Ibn Taymiyyah à ce propos? Ça c'est la première question. Donc, l'avis de Jumhur, ça c'est la règle. La règle dit que tout ce qu'on va voir par après, comme quoi telle action efface tel péché, la prière du vendredi efface les péchés de 10 jours, les 5 prières effacent les péchés, Ramadan efface les péchés d'une année, on va voir tous ces hadiths. Là, on parle de quoi? Des gros, des petits? Des petits péchés. On se met d'accord, on parle des petits péchés. Mais pour les grands, il faut quoi? Tawba. Mais pour certains cas, s'il y a vraiment des facteurs qui interviennent, tels que la sincérité, l'ikhlas, le sidq, al-rahma, etc., il se peut qu'Allah Azza wa Jal pardonne à la personne, même s'il n'y a pas de tawbah, seulement par cette bonne action. Mutafiqun? Non. La deuxième question, est-ce que pour que les petits péchés soient pardonnés, il faut éviter les grands péchés ou pas? Ça, c'est une question. Est-ce que pour que les petits péchés, donc on a parlé les grands, il faut tawbah, sauf exception. Pour les petits, on dit que si tu fais de Ramadan à Ramadan, ils sont pardonnés. Mais est-ce que c'est une condition que les grands péchés doivent être évités ou pas? Là aussi, on a en général deux avis de l'ulama. L'avis qui dit que les grands péchés doivent être évités pour que les petits soient pardonnés. C'est une condition. Ils disent, si tu veux que tes prières obligatoires, les cinq prières, effacent, expient les petits péchés, tu dois éviter les grands. Si tu veux que Ramadan expie les petits péchés, tu dois éviter les grands. Si tu veux que l'Umrah expie les petits péchés, tu dois éviter les grands. Ça, c'est l'avis de la plupart de l'ulama. Ibn Rajab, rahimahullah, cite l'avis des autres savants, il dit à la lettre. Il dit, « وَالصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ورجحه ابن عطية وذهب إليه كثير من الحذاق أن ذلك ليس بشرط. Il dit que l'avis qui est correct et son avis appuyé par des grands savants experts. Il cite la parole aussi de Ibn Atiyya qui lui aussi est du même avis, comme quoi ce n'est pas une condition pour que les petits péchés soient pardonnés, ce n'est pas une condition d'éviter les grands. Il dit que c'est l'avis le plus correct. وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقا. Et que les cinq prières obligatoires effacent les petits péchés, même si on n'évite pas les grands. إذا لم, mais là il met une condition. إذا لم يصر عليها, إذا لم يصر على الصغيرة. Si tu ne persistes pas à faire les petits péchés. Là, c'est l'avis de ceux qui disent que c'est pas une condition d'éviter les grands. Ils ont condition. Tu fais le petit, hein? Tu fais des grands et tu fais des bonnes actions. Les bonnes actions effacent les petits à condition que tu ne persistes pas sur les grands péchés. Sur les grands péchés. Ça, alors, si tu insistes à faire le grand péché, ça veut dire que ça n'efface pas les petits. Donc c'est grave ou c'est pas grave? C'est très grave. C'est très grave. Parce que d'habitude, on a toujours entendu que ça efface, on ne fait pas attention. Elle dit à condition de ne pas insister à faire ce péché. Tu insistes, il n'est pas pardonné. Et on rapporte de Ibn Abbas qu'il a dit, et aussi d'autres, la kabirata, la saghirata ma'a israr, wa la kabirata ma'a istighfar. La saghirata ma'a israr, wa la kabirata ma'a istighfar. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette parole? Que un petit péché sur lequel on insiste, on persiste, Il devient grand et grave. Et qu'un grand péché pour lequel on fait l'istighfar et le tawbah, il est pardonné. Donc il dit pas c'est un petit, c'est pas grave. Un petit, eh bien si tu persistes à le faire, il devient très très grave. Alors qu'on commence avec les actions expiatoires, en détail. On a parlé en général. Et que vous suivez. On parle maintenant en détail. Le premier, je cite, il y a certainement beaucoup, vous les connaissez, alhamdoulilah. Et je cite pas tout. Moi, j'ai noté peut-être 34, 35, sinon il y en a beaucoup. Alors, ça, c'est Rahmatullah Azza wa Jalla qu'il y en a beaucoup. Ou là, vous voulez moins. Le premier, isbarul wudu, faire des ablutions correctes et complètes. Isbarul wudu. الرسول صلى الله عليه وسلم بن صحيح مسلم عثمان رضي الله عنه a fait les ablutions devant les gens pour leur montrer les ablutions du prophète صلى الله عليه وسلم. Il leur dit que le prophète عليه الصلاة والسلام a fait des ablutions qui ressemblent aux miennes. Il a dit que toute personne qui fait des ablutions correctes et complètes et va à la mosquée pour prier, Allah Azza wa Jalla lui expie tous les péchés. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Que grâce aux ablutions seulement. Et que les pas qu'il a fait pour aller à la mosquée, plus la prière qu'il a fait à la mosquée, sont encore un plus. Nafila. Un plus. Sinon, que grâce aux ablutions qu'il a fait, correctes, et qui ressemblent à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les péchés sont expiés. Et j'insiste là sur les ablutions faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas des ablutions inim ou shmal ou tamba ou n'importe comment. N'importe comment. Sabban, sabban rajlin.
deux heures en dessous du robinet. Et le frère, il discute, le robinet ouvert, l'eau qui coule. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les ablutions. Les ablutions. À peine il touche sa main. Ou bien surtout pour les cheveux, parce qu'il vient de se peigner les cheveux. J'ai vu des frères, malheureusement. Il fait tout doucement, à gauche et à droite. Hadi, les ablutions, il mérite cette récompense, celle-là. Les ablutions qui ressemblent au moins à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim et Ahmed, toujours par Uthman, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: Man tawadda'a fa ahsana al-wudu. Donc ce hadith est rapporté par plusieurs versions. Dans certaines il y a des détails, dans d'autres il y a moins, etc. Celui qui fait correctement, man tawadda'a, chauffe, man tawadda'a fa ahsana al-wudu. Il aura fait convenablement et correctement al-wudu, les ablutions, pas n'importe comment. Kharajat dhunubuhu, les péchés, les petits que t'as fait. من جسدي خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. Les péchés quittent ton corps, les péchés que tu as fait, jusqu'à quitter avec la dernière goutte qui tombe de tes pieds. Parce que ce sont les derniers membres que tu laves à la fin, c'est tes pieds. Le dernier péché quitte, il part, disparaît avec la dernière goutte. Quand tu auras fini les ablutions, aucun péché. Ça vaut la peine ou pas? Ça vaut la peine. C'est pour ça que le Rasoul alayhi wa sallam dit: La yuhafidu ala l'wudu'i illa mu'min. Seul un vrai mu'min fait tout le temps les ablutions. Elle est tout le temps en état d'ablution. Un vrai mu'min. Ça veut dire qu'il y a des vrais, il y a des moins vrais. C'est l'iman. L'iman. Ah, il y a des photocopies. L'iman. C'est pas facile. À chaque moment que tu as perdu tes ablutions, tu le refais. Il faut des efforts, il faut se sabre. La yuhafidu ala l'wudu illa mu'min. Imaginez, subhanallah, quelqu'un qui fait l'wudu 2, 4, 5, 10 fois par jour, tout le temps il est en état d'ablution. Il aura des péchés sur lui, des petits. Il n'aura pas de péché. Même s'il fait des petits péchés, fait les ablutions, aucun. Encore des petits, des ablutions, aucun. Tout le temps il est clean. Masha'Allah. Purifié. Et le deuxième point, c'est les 5 prières obligatoires. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة رابورتي بار مسلم إن أوتر فيرسيون بار البخاري ومسلم دون صحيح مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأنا parlé de cette question. Les 5 prières obligatoires expient les péchés. Expient les petits péchés. Et dans صحيح البخاري مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام dit à ses compagnons: Voyez-vous si jamais l'un d'entre vous, il a devant sa maison une rivière. Et il passe devant la rivière combien de fois? 5 fois par jour, il se lave dans cette rivière. Est-ce qu'il aura encore des impuretés sur lui? Ils ont dit, la ya Rasulallah. Ayabqa min daranihi shay? Qalu la ya Rasulallah. Il dit, c'est la même chose, les 5 prières. Elles expient tous les péchés. Il ne restera pas un péché. Les 5 prières ressemblent à cette rivière que, dans laquelle tu te laves 5 fois par jour. Tu as 5 prières à faire par jour. Troisièmement, les prières an-nafila, surrogatoires. An-nawafil. Et le Rasoul alayhi salatu wa salam, dans le hadith sahih, dit à un compagnon: Akthir min as-sujoud. Fais beaucoup de prosternation. Il fait allusion à quoi? Beaucoup de prosternation. Pas seulement la prosternation. C'est-à-dire la prière. La prière en général. Et surtout an-nafila, parce que la prière obligatoire. Pas dire, c'est beaucoup de prières obligatoires. Le nombre est limité. Le nombre est limité. Mais les prières surrogatoires. Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit: فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَ. Pour chaque prosternation. إِلَّا رَفَعَ لَكَ بِهَا دَرَجَ وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَ. Pour chaque prosternation, un péché expié. Chaque prosternation. Ta prière est payée. Chaque geste dans la prière est payé. Par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, toujours dans le domaine de la prière, Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl. Et la prière de la nuit. Il est rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi, al-Hakim. Le hadith est déclaré authentique par certains ulama comme Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi. hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est critiqué par d'autres ulama, mais il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi qiyam al-layl, faites qiyam al-layl, faites qiyam al-layl. La période qiyam al-layl est passée. C'est quand qiyam al-layl? Ramadan, ça fait la dernière nuit de Ramadan. Et même pour certains, c'est la 26e, le 26e jour. On vient le 26e jour de Ramadan, la nuit du 27e. On prie Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, après c'est fini. On dit pourquoi? Oh, parce qu'hier c'était Laylat al-Qadr, Laylat 27. Laylat Zroud. Zroud. Vous savez c'est quoi Zroud? C'est pas Laylat al-Qadr. Qiyam al-Layl. Alaykum bi Qiyam al-Layl. Fa'innahu da'bu s-salihina qablakum. Qiyam al-Layl. C'est une chose courante chez les pieux avant nous. Chez les gens avant nous, Qiyam al-Layl, c'était une tradition courante. C'était une chose tout à fait ordinaire de faire Qiyam al-Layl. Normal de faire Qiyam al-Layl. C'était honte pour quelqu'un qui ne fait pas Qiyam al-Layl. Même, il y a même un cheikh, un jour, un cheikh, il ne faisait pas Qiyam al-Layl. Et puis il est rentré dans une mosquée, il a vu un enfant, en train de faire Qiyam al-Layl. Et il a dit à ce cheikh, quand il a fini, il est venu lui parler, il a dit à cheikh, moi, je n'ai fait que quelques raka'at de Qiyam al-Layl, pas comme toi, je fais beaucoup de Qiyam al-Layl. Et moi, cheikh, ma qu'il a Qiyam wa l'ihzanoun, il n'est pas comme toi. Cheikh, il dit, c'est à partir de ce jour-là, j'ai honte, je n'ai cessé de faire Qiyam al-Layl. Toute sa vie, il n'a pas arrêté de faire Qiyam al-Layl. Subhanallah, qui l'a déclenché? Un jeune. Qui a parlé Ibn Niyya? Mais le cheikh, il avait le khayr dans son cœur, subhanallah. Il n'a pas fait Qiyam al-Layl pour le jeune, ou bien pour qu'on dise de lui. C'est entre lui, Allah Azza wa Jal. Mais cette nasiha, ce rappel, a servi pour quelque chose. Alaykum bi Qiyam al-Layl fa innahu da'bu s-salihina qablakum. Wa qurbatun ila rabbikum, ça vous fait rapprocher d'Allah. Wa manhatun anil ithm. Ça vous empêche de tomber dans le péché, qiyam al-layl, wa takfirun lis-sayyi'at, et ça expie le péché. Qiyam al-layl, ça expie les péchés, ça efface les péchés, wa matradatun lid-da'i 'anil jasad, et ça vous évite les maladies. Et quand tu as des fois certaines maladies, certains mal de dos, etc., tu vas chez le médecin, il va te dire fais deux gestes, hein, comme le canard ou la Qiyam al-Layl, c'est pas pour le sport, on le fait ibada. Mais il y a aussi des avantages au niveau de mouvements qu'on fait. Mais sinon, nous, on le fait ibada lillahi rabbil alamin, subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, salatu al-tasbih. Salatu al-tasbih. La prière de tasbih, dont on a parlé, je crois, une fois. Hein? On a parlé de ça? Jamais. Salatu al-tasbih. Le hadith, en tout cas, cette salat est critiquée par beaucoup de savants et est déclarée authentique par beaucoup de savants. Lakin, je citerai quelques noms de ceux qui l'ont déclaré sahiha, comme l'imam Abu Dawood, l'Hakim, l'Khatib al-Baghdadi, al-Zarkashi, Ibn Hajar, dans l'un de ses ouvrages, sinon dans d'autres ouvrages, il a déclaré faible, al-Zabidi, al-Mundiri, al-Baghawi, Ibn al-Salah, Nawawi al-Suyuti dans l'un de ses ouvrages aussi, est déclaré faible par Tirmidhi ibn al-Arabi al-Arabi al-Maliki, pas ibn al-Arabi le Soufi, Nawawi dans un de ses ouvrages et certains savants. Salat al-Tasbih, qu'est-ce qu'elle dit cette salat? Eh bien, qu'on essaye inshallah azza wa jal, qui a prié salat al-Tasbih parmi vous? Jazakallahu khair. Qu'on essaye de la prier au moins une seule fois. Inch'Allah, on s'en rencontrera la fois prochaine, tout le monde aura fait salat tasbih. Salat tasbih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son oncle l'Abbad, il dit Ya Am, ô mon oncle, Ala anfa'uk, veux-tu que je te donne quelque chose de bénéfique? Je t'offre un cadeau, n'a-t-il hadiya? Ala ahbouk, ala asiluk, je vais lui donner un cadeau. C'est quoi? Il lui dit تصلي يا عمي أربع ركعات. Tu dois prier 4 ركعات. تقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة. Dans chaque raka'a, tu lis Al-Fatiha et une sourate. Quatre raka'a. Fatiha, surah, Fatiha, surah, Fatiha, surah, Fatiha et surah. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَ Quand tu as fini la récitation de Fatiha et surah, toujours debout, تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله Combien de fois? 15 fois. Tu dis cette phrase 15 fois. En étant debout avant l'inclinaison, قبل الركوع. قبل أن تركع. ثم اركع. Ensuite fais الركوع. Incline-toi. Tu répètes la même phrase 10 fois dans l'inclinaison. ثم قل ثم قلها عشرا وأنت راكع قبل أن ترفع رأسك. Avant de te redresser, dis-le 10 fois. Ça fait combien? Jusqu'à maintenant. 25. ثم ارفع رأسك. Redresse-toi. وقلها عشرا. Dis-le encore 10 fois. قبل أن تسجد. Avant de te prosterner. ثم اسجد. Ensuite tu te prosternes, tu le dis 10 fois. Ça fait combien? Quand tu te lèves de la prosternation pour t'asseoir, 10 fois. 55. Deuxième prosternation, 10 fois. 65. Tu vas t'asseoir avant de te lever. Ma yusamma bi jalsat l'istiraha. On fait une pause avant de nous lever pour faire la deuxième raka'a. Pendant 3-4 secondes avant de te lever, tu restes assis. Et lui, tu lui dis encore 10 fois. Total, ça fait combien? 75. Qal, tilka 75. Et tu fais dans la deuxième, la troisième, la quatrième raka'a la même chose. La même chose. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ رِمَالِ عَالِجِ غَفَرَهَ اللَّهُ لَكَ. Après cette prière, si tu avais des péchés du nombre de qui est équivalent à la mousse qu'on voit sur le bord de la mer, toute cette mousse qu'on voit dans les océans, si tu as des péchés qui ressemblent en dimension, Allah il te pardonnera. Ou bien un nombre équivalent au nombre de grains de sable de Alish qui se trouve en Arabie, une montagne, un endroit. Si tu avais des millions, des milliards de péchés, Allah les expiera, ils seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Rasul Hassan dit: إِلْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَصَلِّيهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. Si tu n'arrives pas à la prier chaque jour, au moins une fois chaque jour, au moins fais-le une fois chaque jumu'a. C'est-à-dire une fois chaque... Non, le terme jumu'a ici ne veut pas dire vendredi. Jumu'a ça veut dire aussi la semaine. Une fois par semaine. Et ça c'est dans l'arabe, on dit le jumu'a pour la semaine, comme dans le hadith de Dajjal, et aussi pour le jour du vendredi. Alors là, il dit au moins une fois par jour, ou bien une fois par semaine. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَرَّةً فِي الشَّهْرِ. Si tu n'arrives pas, au moins une fois par mois. Sinon, une fois par an, sinon une fois durant toute ta vie. Mais au moins, ne la rate pas. Sixièmement, qiyam au Ramadan, toujours dans la prière. Prière de la nuit durant Ramadan, ce qu'on appelle tarawih. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari muslim dit: Man qama Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui fait qiyam lève durant Ramadan correctement, en cherchant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour les gens, tu ne viens pas à la mosquée faire qiyam lève pour que... on dit de toi, mashallah, il a prié 11 tarawih. Parce que des fois, tu ne veux pas prier les tarawih. Tu veux prier deux et partir. Mais comme il y a tes copains là, tu dis: ah, chouma, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors je reste. Tu ne le fais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça me dit: man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Tu le fais pour Allah. Tu veux le hasanat, le hisab, chez qui? Allah. Allah il t'explique tous les péchés. Là, quand je dis tout, on est d'accord qu'on parle de quel péché? Les petits. Ou bien si tu n'arrives à faire que qiyam d'une seule nuit, c'est Laylat al-Qadr, mais il faut la connaître pour... C'est pour cela qu'il est très recommandé de faire qiyam la durant au moins les 10 derniers jours de Ramadan. Comme ça, t'es sûr, inshallah, azza wa jalla. Man qama Laylat al-Qadri, iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui fait qiyam layl durant la nuit du destin, tous les péchés sont expiés. Pour Allah, il ne vient pas parce que dans certains pays... Et même ici, subhanallah, dans certaines familles, c'est une habitude, c'est une coutume, tradition. Ils ne vont pas pour plaire à Allah Azza wa Jal. L'ilat 27, la nuit du 27e jour de Ramadan, tous des djellabas blanches, tarbou chmar, avec des ksou, couscous, on va à la mosquée, toute la famille. On va parce que c'est une tradition. Innama al-a'malu binniyat. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Huitièmement, al-mukthu fil masajid ba'da as-salawat wa intidhar as-salati ba'da as-salah wa al-mashyu 'ala al-aqdami ila al-jama'at. C'est le fait de rester dans la mosquée, attendre prière après prière. De prier par exemple le maghrib et de rester à la mosquée assis, attendre l'isha. Prier dhuhr et rester attendre l'asr. Le fait de marcher à pied à la mosquée pour assister à la prière commune. Al-Rasul alayhi salatu wa salam dit dans ce qu'a rapporté Ibn Majah bi sanadin sahih, d'après Abu Huraira, kaffaratul khataya, les actions expiatoires qui effacent les péchés, isbarul wudu'i ala al-makari, faire tout le temps al-wudu', même dans les moments difficiles que tu détestes, fi awqat al-karaha, al-bard al-shadid, al-ta'ab al-nawm, t'es fatigué, t'as envie de dormir, il fait froid, tu fais les ablutions, ça expie les péchés. وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Et marcher à pied pour aller à la mosquée et attendre prière après prière. Ça s'appelle les actions expiatoires. Le titre, كفارات الخطايا. Ça c'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Priez deux raka'at après les ablutions. Faites correctement. Priez deux raka'at, mais لا يحدث فيهما نفسه. Les ulama disent لا يحدث فيهما نفسه. Ça veut dire ne pas chercher à penser à dunya et au bien matériel de dunya. Ça, c'est une condition pour que les péchés soient pardonnés. Mais si les idées viennent, Allahu Akbar, il y a les idées qui viennent, dunya, 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 il y a la voiture qui vient, il y a le voyage, etc. Et toi, tu dis dans ta tête, non, je veux me concentrer, tu fais des efforts, eh bien, tu as la récompense. Tu as la récompense. Puisque toi, tu refuses d'avoir ces idées. C'est plus fort que toi. Mais si c'est toi qui la cherches, eh bien tu n'as pas cette récompense dont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les péchés sont pardonnés. Dixièmement, salatu rak'atayni ba'da dhanb, prier deux rak'at après le péché. Tu fais un péché, je ne parle pas de tawbah. Tawbah c'est un autre sujet. Tu fais deux rak'at parce que tu viens de faire un péché, mais un petit péché. Tu as fait un petit péché, tu fais deux rak'at, Allah il te pardonne le péché que tu as fait. C'est ce qu'on appelle salat. Salatu tawbah. Salat al-Tawbah, pour les frères qui suivent les cours du fiqh, on l'a vu l'année passée. Salat al-Tawbah, la prière du repentir. On appelle Salat al-Tawbah. Mais la Tawbah, c'est au sens général. Même si c'est un petit péché, même si tu fais un péché, tu fais les deux rak'at, les deux rak'at expient le péché. Onzièmement, c'est de répondre à l'appel du mu'addin, celui qui fait l'appel à la prière. Il y a une phrase qu'on n'entend pas. On n'entend pas. C'est quand le mu'addin dit Allahu Akbar. Les ulama, ils ont divergé à quel moment il est recommandé de dire cette parole. Parce que cette parole, si tu l'as dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous les péchés sont expiés. Quelle est la phrase? C'est quand le mu'addin dit Allahu Akbar, quatre fois, bien deux fois. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Là, parce que d'habitude on dit comme lui, donc il y a plusieurs manières, on dit comme lui. Mais là, quand il arrive là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam te dit wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islam dina. Celui qui dit cette phrase, Allah lui explique tous les péchés qu'il a fait avant. Pour certains ulama, cette phrase on l'a dit à la fin de l'adhan. Il y a deux avis de l'ulama. Soit au moment où il fait tashahhud, ou bien à la fin de l'adhan, à la fin de l'appel à la prière, en plus des autres invocations qu'on entend très souvent. Deuxièmement, le vendredi, je laisse le titre comme ça, le vendredi. Vendredi. Car le jour du vendredi, il y a plusieurs choses. Il y a de un, Rasul Azim dit, Man irtasala yawm al-jumu'a, celui qui se lave et se purifie le jour du vendredi. Thumma ata al-jumu'ata, fa salla ma kutiba lahu. Donc il se lave chez lui, il va à la mosquée, bien sûr avant le khutba, et il prie quelques raka'at, nombre illimité, autant de raka'at qu'il veut. Arrivé à la mosquée, il peut prier autant de raka'at qu'il veut. Troisième chose. Ensuite, après les raka'at qu'il a fait, dès que l'imam arrive, il s'assoit et il écoute le khutbah, le discours, jusqu'à la fin du discours. Il parle avec personne, il ne dort pas sur le chauffage, et il ne joue pas avec sa barbe, ni avec son bouton, et il est concentré. Jusqu'à la fin du discours. Thumma, ensuite, yusalli ma'ahu, il prie avec l'imam. Ghufira lahu ma baynahu, ay ma bayna dhalika al-yawm. Alors, s'il fait cela, qu'est-ce qui lui arrive? Allah lui pardonne. Ma baynahu wa bayna al-jumu'ah, entre le vendredi et le prochain, c'est-à-dire combien? Une semaine. Wa fadlu thalathati ayyam, plus 3 jours. Ça fait combien de jours? 10 jours de pardonner. Pour une heure ou deux heures de travail, un travail avec Allah, tu auras 10 jours pardonnés de péché. Treizièmement, le jeûne du Ramadan, man sama Ramadan iman wa ihtisab ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui aura fait Ramadan correctement, Allah lui pardonne tous les péchés. Quatorzièmement, le jeûne du jour de Arafat et le jour de Ashura. Le jour de Arafat, jeûner le jour de Arafat, ça explique combien de jours? Combien de jours? 2 années. L'année précédente et l'année prochaine. 2 années de péché. 2 années. Combien de jours de jeûne? 1 jour. 1 jour. Le jour qui précède l'Eid. L'Eid du sacrifice. 1 jour de jeûne, 2 années de péché pardonné. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est encore Allah qui nous donne encore les hasanat. Et le jour de Ashura, il explique combien d'années? 1 an. Le jour de Ashura, c'est le 10e jour du premier mois lunaire, Muharram. C'est le 10e jour. Il expie les péchés durant une année, comme a rapporté At-Tabarani fil Awsat bi sanadin sahih. Le 15e, Al-Hajj et l'Umra, le pèlerinage et la Umra. Quant à la Umra, on a le hadith du professeur dans Musnad Ahmed, hadith authentique, Al-Umra tu ila al-Umrati kaffaratun lima baynahuma. De la Umra à l'autre, tous les péchés sont expiés. Tu as fait cette année l'Umra, d'ici 2-3 ans tu fais l'Umra, tous les péchés sont expiés entre les deux Umra. Il y a des frères qui ont été à l'Umra. Ah, ça veut dire qu'ils sont clean, Inch'Allah. Et quant à l'Hajj, on a vu l'histoire de Amr ibn al-As. Quand Rasul lui a dit, il y a Amr, l'islam efface la mécréance, le passé, ou l'Hajj, yahdimu ma qabla, le pèlerinage expie le passé. Al-Hajj, tu reviens comme le jour de ta naissance. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Tu reviens, سبحان الله, pas aucun péché grâce à l'Hajj. Et là où il y a aussi pour tawaf, celui qui fait tawaf durant, qui fait 7 fois, 7 tours autour de la Kaaba, pour chaque pas, il y a un degré élevé et un péché effacé pour chaque pas. Ça veut dire que les frères, là, سبحان الله, ça va aider les frères et sœurs qui, des fois, ils ne peuvent pas faire tawaf près de l'Kaaba. Parce que plus tu es proche de l'Kaaba, plus tawaf se fait vite. Le cercle, il est petit. Mais plus tu vas plus loin, il devient plus grand. Et ceux qui le font encore sur le toit, ça fait 2 heures de tawaf. 2 heures pour faire le tour. Mais là, ils ne vont pas oublier que pour chaque pas, donc lui, il a plus de hasanat. Parce qu'il ne l'a pas cherché. Il a plus de hasanat. Pour chaque pas, un péché expié. Ça veut dire 2 heures, peut-être tu as fait 2000 pas ou 3000 pas, Allahu A'lam, eh bien 3000 de péchés effacés. 16e, Al-Humma. Vous savez c'est quoi Al-Humma? La fièvre. La fièvre. La fièvre quand ça atteint le musulman, subhanallah. Pour le musulman, rahmatullah azzawajal, pour le musulman, même les maladies sont du bien pour toi. Même la maladie c'est quelque chose de bien pour toi. Tu dois dire Alhamdulillah. Alhamdulillah que je n'ai pas une maladie pire. Demande à Allah de te guérir, bien sûr. Mais dis aussi Alhamdulillah qu'il ne m'a pas donné une maladie encore plus grave. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a entendu un jour une femme, compagnon, Umm Sa'ib, en train d'insulter la fièvre. Elle avait la fièvre. Elle a commencé à insulter la fièvre. D'après Muslim, alors Rasul lui dit, la tasubbil humma, pourquoi tu insultes la fièvre? N'insulte pas la fièvre. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. Ça efface les péchés de l'homme comme chez le forgeron il utilise, vous savez c'est quoi le kir? Hein, le soufflet pour pour nettoyer le métal. Elle utilise le soufflet. Avec le feu et avec des coups, ça nettoie, ça enlève les impuretés du fer. Eh bien, la même chose, comme ça, il reste la matière pure. La même chose pour Al-Humma, la fièvre, ça nettoie le musulman. Il n'aura pas un péché sur lui. 17e, tout ce qui touche le musulman, et on a parlé de ça, la fatigue, la maladie, la tristesse, le souci, etc. 18e, Al-Zikr, l'invocation. L'invocation. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons sahaba dans Sahih Muslim, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةً. Êtes-vous incapable de gagner 1000 hasanats par jour? Sahaba, ils ont trouvé 1000 hasanats, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils ont dit à Rasulallah, وَكَيْفَ نَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ فِي الْيَوْمِ. Comment est-ce possible? Il leur a dit, Rasoul sallam, تُسَبِّحُونَ اللَّهَ مِئَةَ تَسْبِحَةً. Tu dis subhanallah combien de fois? 100 fois. Les hasanats multipliés par combien? Par 10. Tu dis subhanallah 100 fois, tu auras 1000 hasanats et 1000 péchés effacés, expiés. 1000 hasanats plus 1000 péchés effacés quand tu dis subhanallah, 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 100 fois. Tu comptes subhanallah, 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 100 fois, tu as 100. Alors fais le compte. 100 péchés de moins, 100 péchés de moins chaque jour. À la fin du mois, combien tu auras? 30 fois 100, ça fait 3000. Au moins, 3000. 3000 péchés. Que pour subhanallah. En plus des prières, en plus du jeûne, en plus de sadaqa, en plus de autres actions, tu n'auras plus de péché. Qu'avec les ablutions, tu n'auras pas de péché. Subhanallah. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Hassan, Inna subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, تَنْفُضُ الْخَطَايَا كَمَا تَنْفُضُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. Tu sais, la saison qui suit l'été, c'est l'automne. Qu'est-ce qu'ils font, les arbres? Ils perdent leurs feuilles. Et tu vois l'image des feuilles qui tombent. L'une après l'autre, après, il n'y a pas une seule feuille. Alors, ça s'est mis dans la même image. Il dit que le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ça fait disparaître les péchés comme l'arbre perd ses feuilles. Tu n'auras pas une seule feuille, pas un seul péché après avoir dit ces invocations. Dans un autre hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il dit alayhi salatu wassalam, man qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin mi'ata marra. Celui qui dit subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 fois par jour, huttat khatayah wa in kanat mithla zabad al-bahr. Même si ça ressemble à la mousse qu'on trouve sur les océans, sur la plage, eh bien, tous les péchés seront dissipés et seront disparus. Auront disparu. Grâce à quoi? Grâce au fait de dire 100 fois subhanallah wa bihamdi. Il y a un autre hadith, sahih, dans lequel Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit 100 fois la ilaha illallah après subh et après maghrib, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Combien de fois?
Veuillez retourner la cassette, s'il vous plaît.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Combien de fois? 100 fois. Celui qui dit cette invocation 100 fois, le matin ou bien le soir, la récompense est la suivante. De 1, il aura la récompense de quelqu'un qui a affranchi 10 esclaves. Il leur a donné la vie, entre parenthèses. Entre parenthèses. Et ça, bien sûr, il a dit dans le Coran et le Sunna comme quoi le fait de donner la liberté à un esclave, c'est comme si tu lui as donné la vie. 10 esclaves affranchis, tu as la récompense et tu n'as pas payé un franc. Tu n'as dit que 100 fois ces invocations. De 2, kutibat lahu mi'atu hasana, plus 100 hasana, plus 100 péchés expiés. Wa huttat anhu mi'atu sayyi'a wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani dhalika al-yawm. Et tu es protégé contre Shaitan toute la journée. Et si tu l'as dit le soir, tu es protégé toute la nuit. Donc, les péchés sont expiés. Sans péché, expiés pour avoir dit cette phrase que nous a rapportée le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Musafaha, 19. Musafaha. Serrer la main. Bien sûr, homme, femme. Serrer la main. Serrer la main de son frère. Al-Rasul alayhi salatu wa sallam. C'est un geste que tu peux faire en 2 secondes. En 2 secondes. Rasulallah, chauf, tu serres la main à ton frère, en plus de que ça te donne le mahabba, la fraternité, etc. Rasulallah, il dit, ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما ما تقدم من ذنبهما قبل أن يتفرقا. Deux musulmans qui se rencontrent, ils se serrent la main avant de se quitter, tous les péchés sont pardonnés. En deux secondes, tous les péchés sont pardonnés pour avoir serré la main de ton frère. Le hadith rapporté par Ahmad il est hadith Hassan. 20. Le fait de d'écarter le mal qui se trouve sur le chemin du musulman. Il y a du mal, il y a une voiture dans laquelle il y a une radio à 3h du matin qui réveille tout le monde. Si tu arrives à l'écarter du chemin, eh bien tes péchés sont pardonnés. Si tu vois sur le chemin qu'il y a du verre cassé, il y a tes voisins, etc. Et avec ton pied tu essaies de l'écarter, tes péchés seront pardonnés, inshallah subhanahu wa ta'ala. 21e, al-birru bil walidayn, le bon comportement envers les parents, ça on en a parlé plusieurs fois. 21, de là, juste à titre de rappel, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans lequel il a dit trois fois amin, vous avez déjà entendu parler, amin, 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 il est monté sur le minbar, amin, 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 et sahaba ont dit, on t'a entendu dire trois fois amin, pourquoi? Le Jibril est venu chez moi, il m'a dit, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un a eu la chance de jeûner Ramadan, de vivre le mois de Ramadan, mais il n'a pas su gagner le pardon d'Allah à la fin de Ramadan, qu'il soit écarté, ab'adahu Allah, dit amin, Rasoul dit amin. Man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya ab'adahu Allah, amin. Tu entends le nom du prophète, tu dis pas sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit écarté. Et Rasoul dit amin. Troisièmement, man adraka أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له فأبعده الله. Celui qui a le père ou la mère ou bien les deux et qui sont âgés et n'a pas su gagner le pardon, l'expiation des péchés, qu'il soit écarté de moi. أبعده الله. Amin. 22. الصدقة. صدقة. L'aumône. Donner صدقة. Ça expie les péchés. Rasoul صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith un peu long. الصدقة تطفئ الخطيئة. As-sadaqa éteint la flamme du péché, éteint le péché, elle expie le péché, as-sadaqa. Et Abu Bakr al-Siddiq, parce que le péché c'est le feu, le péché c'est le mal. Abu Bakr al-Siddiq, quand il entendait l'appel à la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il dit aux gens, sahaba et aux musulmans, allons-y, levez-vous pour aller éteindre le feu que vous avez allumé par vos péchés. Soyez des pompiers. Allez, Zid. Atfi'u an-nar allati awqadtumuha bima'asikum. Levez-vous pour aller éteindre le feu que vous avez allumé par vos péchés. C'est-à-dire la prière. Vous voyez, considérez que le péché, c'est du feu, an-nar. Et ici, Sadaqa parle de qu'elle éteint le péché. 23. Al-ihsanu ila al-khalq. C'est d'avoir l'ihsan, une bonté envers les créatures. Ça pardonne les péchés. Et on a vu l'exemple, on a entendu l'exemple de la femme qui a fait l'ihsan, une bonté envers qui? Un chien. Et Allah lui a pardonné. Un chien. L'ihsan ila al-khalq. 24. Dua al-salihim. On a parlé de ça. 25. Al-tawba. Maintenant, al-tawba, ça concerne les grands et les petits. Les petits sont d'office inclus dans tawba, mais surtout pour les grands péchés. Quelqu'un qui a fait tawba, wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun. Tous, Allah dit à tous les musulmans, tous les croyants mu'minin, wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun. Tous, faites tawba. Rasoul faisait tawba 100 fois par jour, le Nabi alayhi salatu wa salam. 26, l'istighfar. C'est de faire l'istighfar, beaucoup de l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Là encore, je rappelle chaque fois, l'istighfar, ça doit venir d'où? Du fond du cœur. Pas l'istighfar, répéter des paroles qui n'ont pas de sens. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ah, agis. Je n'ai rien dit que tu m'as. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ah, fuqed del match. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Al-hirira tabat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je m'as astaghfirullah, hadi. Tu crois que c'est une recette? Astaghfirullah. Astaghfirullah, ça veut dire, ya Rab, je reconnais avoir fait le péché, je suis faible devant toi. Ya Rabbi, pardonne-moi, sinon je serai dans la perdition. C'est ça, astaghfirullah. Et chaque fois, je rappelle aux frères et aux sœurs la parole de Ali, radiyallahu anhu, quand il est passé devant cet homme qui disait, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Il lui a dit, ya hada, écoute-moi, inna astighfaraka bihajatin ila astighfar. Tu dois demander à Allah Ta'ala de te pardonner la manière dont tu fais le pardon encore. 27. Iqalatu al-muslimi bay'atah. Yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man aqala musliman bay'atahu aqala Allah 'asratahu yawm al-qiyamah. Tu contractes, tu conclus un contrat avec ton frère, avec un musulman. Tu lui vends quelque chose, un contrat, ça ne veut pas dire forcément par écrit, mais par la parole. Vendu, acheté. Tu me vends ta voiture, elle est vendue. J'ai acheté. C'est vendu en islam. C'est vendu. J'ai vendu, c'est vendu. Et le lendemain matin, l'acheteur a regretté. Soit parce qu'il n'avait pas d'argent, soit parce qu'il a trouvé une voiture meilleure, alors que le contrat est fait. Fini. Et le revenu t'a dit, écoute, moi, c'est vrai, j'ai acheté, c'est fini. Mais je te demande d'annuler le contrat, s'il te plaît. Non, rien. Moi, je ne veux pas, chaque fois, si chacun me fait comme ça, non, moi, j'ai vendu, c'est fini, là, j'ai le baraka. C'est comme ça qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas l'islam. On pense qu'à l'argent. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man aqala musliman asratahu, bay'atahu, aqala Allahu asratahu yawm al-qiyamah. » Tu lui dis, « C'est pas grave, mon frère. C'est pas grave. Pas, ouais, mais tu dois me donner 30%. C'est pas grave. Samahak Allah. Qu'Allah te pardonne. Et tu dis, excuse-moi, wallah, je sais que c'est, j'ai agi en mal envers toi et que le contrat est fait. Tu lui dis, c'est pas grave, mon frère. Qu'Allah Azza wa Jal te facilite les choses. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a, le pauvre. Peut-être qu'il, l'argent qu'il t'avait promis de te donner, et maintenant il en a besoin. Soit pour son fils, ou pour sa femme, ou pour lui, ou pour quelqu'un. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a comme problème. Il te demande d'annuler le contrat. Tu lui dis, il n'y a pas de problème, jazakallah khair. Et même tu lui dis, si tu as besoin de moi, je suis là. Je suis là, il n'y a pas de problème. C'est une voiture. Allah qui t'a, c'est Allah qui t'a amené pour l'acheter. Allah, il m'amènera beaucoup de clients. C'est Allah Azza wa Jalla qui décide. C'est pas grave. Alors, ce geste, Allah, yawm al-qiyama, les péchés que tu auras et les péchés difficiles, elle te les pardonnera, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu voudras devant Allah présenter des excuses. Ya Rab, je fais beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés, mais Ya Rab, tu vas commencer à présenter des excuses. Allah, il te dira, non, c'est pas grave, rentre au paradis. Allah, il s'amène. Pardonnez. Quand, avant la résurrection, quand tu étais vivant encore dans ce bas monde, un jour, il y avait un musulman qui est venu présenter des excuses devant toi pour que tu annules le contrat. Tu lui as pardonné. Moi, je te pardonne tous les péchés, rentre au paradis. Pour ce simple geste dans nos transactions. 28. As-salatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Faire les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, d'après Ahmed et al-Bukhari dans le livre Al-Adab al-Mufrad et d'autres, hadith il est authentique, « Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra salawat, wa hatta anhu ashra khati'at, wa rafa'a lahu ashra darajat. » Tu dis, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les autres formules de salat, comme celle de la prière, ou n'importe du moment qu'elle est correcte, eh bien, tu fais une fois Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allah, il parle de toi avec ses anges 10 fois, et il t'élève de 10 degrés, et il efface combien de péchés? 10. 29. De ne pas oublier de dire kaffaratul majlis. Kaffara, une action expiatoire du majlis, comme ici, majlis, toute réunion, invitation, réunion, etc. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un dua que disait le professeur, comme il est rapporté dans Sunan Abi Daoud, et qu'il nous a recommandé de dire. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alors là, tu as deux cas. Si dans ce majlis, les deux cas sont cités dans le hadith du professeur, si dans ce majlis, il y a eu certains mots de travers, etc., on parlait des choses inutiles, larou, des choses inutiles, et il y a eu des petits péchés, à la fin, quand tu dis cette kafara, cet acte expiatoire, eh bien tout ce que tu as dit comme petit péché dans ce majlis sont effacés. Tout. Si dans ce majlis, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de péché, eh bien, il y a qu'on le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça sera comme un cachet sur ce majlis, et fermé, et tu trouveras la récompense auprès d'Allah yawm al-qiyamah. C'est un majlis où il n'y a pas eu de péché. Et tu, Allah seul connaît la récompense de ce majlis yawm al-qiyamah. Et le hadith, il est dans le Musnad de l'imam Ahmed. 30. Celui sur lequel 100 personnes prient la prière mortuaire. Man salla alayhi mi'ah. Au moment, bien sûr, après sa mort. C'est ce qu'on appelle salat al-janaza. D'après Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min rajulin yusalli alayhi mi'atun illa ghufira lah. 100 personnes qui assistent à la prière mortuaire, Allah t'expie le péché. Hadith rapporté par Tabarani. Celui qui a des cheveux blancs en islam, Man shaba fil islam, si tu as attrapé des cheveux blancs, laisse-les. Si on a quelques-uns, laisse-les. Et le frère qui voit son père ou il voit un musulman qui a des cheveux blancs, il doit l'encourager à les laisser. Et la sœur qui voit son mari avec des cheveux blancs, elle doit l'encourager à les laisser. Elle va dire, chouma, ils vont dire, Safi, t'es vieux, regarde, t'es vieux, c'est fini. Au contraire, Wallah, au contraire, ça donne. C'est, alors, ça me dit, ça sera quoi, Yom al-Qiyamah, les cheveux blancs? Nour, la lumière, Yom al-Qiyamah. La lumière. Mais quelqu'un qui a toute la tête et la barbe blanche, alors là, il lui est recommandé de l'atteindre avec une autre couleur autre que le noir. Al-Muhim al-Shib, al-Shib, c'est une lumière. Alors, Rasoul, qu'est-ce qu'il dit de cela? Même il muslimin, yashib ou shaybatan fil islam, il katab Allahu lahu biha hasana, wa hatta anhu biha khati'a. Un cheveu, un péché expié. C'est à toi de faire le compte. Inch'Allah, la semaine prochaine, tous des cheveux blancs. 32. Celui qui dit Amin quand il prie derrière l'imam, en même temps que le malaïka, en même temps que les anges. Quand l'imam dit Waladdallin, on dit avec Amin. Si on dit en même temps que le malaïka, tous tes péchés seront pardonnés. Iza amman al-imam fa aminu, quand dit l'imam Amin, vous dites Amin avec lui. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaïka. غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث rapporté par le Bukhari Muslim et Ahmed. Tous les péchés sont pardonnés. Une petite parole. Et Hadar Sassim dit que les juifs n'ont pas eu l'hasad, l'envie, pour une chose comme ils l'ont eu pour le fait de dire Amin. C'est une chose qui nous a donné Allah Azza wa Jal. Amin. Pas Amin. Shidda. Ça a tout à fait un autre sens. Amin. Tu entends de tout. La même chose, celui qui dit en même temps que le malaïka, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. S'il prie tout seul ou bien derrière l'imam, il dit Rabbana wa lakal hamd, comme c'est l'avis de beaucoup de savants. Donc s'il dit en même temps que le malaïka, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, eh bien tous les péchés sont pardonnés pour cette simple parole. Bukhari, Muslim. 34. Faire une prière à Al-Quds. Nas'Allah an yuharriraha. Faire une prière à Al-Quds, Jérusalem. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce qui a rapporté l'imam Ahmad de Nasa'i ibn Majah que Sulaiman, Salomon, Sulaiman, fils de Daoud, sont tous les deux prophètes. Lamma bana Bayt al-Maqdis, quand il a construit la ville de Bayt al-Maqdis, de Jérusalem. سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة إلى دمون دي الله تعالى تخواشوز سأل الله حكما يصادف حكمه فأوتيه إلى دمون دي الله عز وجل أخي الله تعالى de lui donner la droiture dans son jugement, c'est-à-dire quand il juge quelque chose ou bien entre deux personnes, et bien il fait arbitre entre deux personnes, et bien qu'il tombe toujours sur la vérité. أن يؤتى حكما يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. ثانيا وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. Il a demandé à Allah Ta'ala, il a prié Allah de lui donner un pouvoir qu'il donne à personne. Il lui a donné. On sait que Sulayman, alayhi salam, il avait entre ses mains Al-Jinn, emprisonné, les envoyer pour faire des services, des tâches, des travaux, ne pouvait pas refuser. Sinon, j'étais châtié, torturé par Sulayman, alayhi salam. Il avait le pouvoir de diriger les démons, Al-Jinn. Et il dit que personne après moi n'aura. C'est pour ça que le prophète, sallam, le jour où il avait attrapé un shaitan, il l'avait attrapé. Il a voulu l'attacher à une colonne dans sa mosquée. Et puis il s'est rappelé du dua qu'avait fait Sulayman et qui est cité même dans le Coran. Le pouvoir que Allah ne donnera à personne après lui. Alors il lui a dit à Shaitan, il lui a dit, t'as de la chance. Si, pas par respect à mon frère Sulayman, qui avait demandé qu'Allah lui donne un pouvoir que personne n'aura après lui, eh bien je t'aurai attaché ici jusqu'à Yom al-Qiyama. Et les enfants de Médine t'auraient donné des claques. La troisième chose qu'il a demandé, et quand il a fini de construire le lieu de l'ibada, d'adoration, masjid, que personne vienne, ne vienne à la mosquée de Quds, que toute personne qui vient prier là-bas, une prière, il ne vient que pour ça, que pour prier. Eh bien, il reviendra avec aucun péché, comme le jour de sa naissance. Alors, Sulayman, Allah lui a donné deux. Il lui a donné deux. Alors, Sulayman dit, et j'espère qu'il lui a donné aussi la troisième. Bien sûr, ça veut dire, inshallah, qu'il l'a eu. 35, l'avant-dernier, 35. Alhamdu aqib al-akli wal-lubs. Dire l'invocation de remercier Allah Azza wa Jal après avoir mangé ou bien après avoir mis ses vêtements. Al-Rasul alayhi salatu wassalam nous a recommandé de dire après avoir mangé Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwah. Je remercie Allah qui m'a donné ce plat, cette nourriture, sans aucun effort de ma part. Parce que tout mon corps est créé par Allah Azza wa Jal. Les mouvements, c'est Allah qui les a créés, c'est Allah qui les a donnés. Tout ce que je fais, tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a fait, qui l'a créé. Alors, celui qui dit cette invocation, il remercie Allah Azza wa Jal. Rufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous les péchés sont expiés. Et quand il met ses vêtements, s'il dit Alhamdulillah alladhi kasani hada, Alhamdulillah qui m'a donné ce vêtement, kasani hada, min ghayri hawlin minni wa la quwwa, sans capacité ni force de ma part, rufira lahu ma taqaddama min dhanbi, tous les péchés sont pardonnés. Et dernièrement, je termine avec ce point, talabul ilm. Chercher l'ilm, c'est parmi les meilleures actions expiatoires. Chercher l'ilm al-shari, chercher à apprendre les sciences islamiques. Et al-ulama, ils ont dit que, comme rapporte Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ahlus samawati wal ard, ceux qui sont dans les cieux, le malaïka, et les gens sur terre, font les invocations et implorent pardon pour les ulama. Même les poissons et les baleines au fond de la mer implorent pardon pour les ulama. Et qu'il n'y a pas quelqu'un de meilleur après les prophètes que comme les ulama. Wa inna l'ulama warasatul anbiya, les héritiers des prophètes. Et al-ulama, ce sont eux la protection de la umma. Al-ulama. Il y a l'ulama, la umma est protégée. Il n'y a pas d'ulama, l'umma elle est dans l'égarement. Elle est égarée. Le fait de chercher l'ilm, Rasul sallam dit, man salaka tariqan ila al-janna, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Chercher l'ilm, c'est le chemin, comme on avait dit, le chemin du paradis. Eh bien, c'est le chemin de l'expiation des péchés. Allah Ta'ala pardonne les péchés. Rien que le fait, subhanallah, regarde, quelqu'un qui rentre maintenant pour s'asseoir avec nous, même si, en vérité, il n'avait pas envie. Il est rentré, mais il a cru qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discours, il est rentré, il a vu tout le monde assis, c'est dit, chou, moi je vais sortir tout seul, il est resté assis. Alors, ça se dit, quand les sahaba, ils ont demandé, ya Rasulallah, il leur a dit parce qu'il y a des anges, malaïka, qui ont une seule fonction, une seule mission, c'est de courir à gauche à droite sur terre et de chercher là où il y a majalis al-dhikr, majalis al-ilm, là où il y a talab al-ilm. Et de demander à Allah Ta'ala de pardonner à tout le monde qui sont là. Alors, les sahabas, ils ont dit, ya Rasulallah, mais il peut qu'il y ait un tel qui est juste de passage. Mahshim, il est resté assis. Alors il dit, ya Rasulallah, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Puisqu'il a avec eux, il aura lui aussi la récompense, les péchés pardonnés. Rien que le fait de s'asseoir avec ceux qui cherchent l'ilm. Alors que de dire, le fait d'aller chercher soi-même et de passer des années et des années à chercher l'ilm. L'ilm ibada, c'est une des meilleures ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala et des meilleurs moyens de nous faire pardonner les péchés. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم